français
entre les poteaux.
Christophe Cessieux.
Salut à tous. Si le rugby français se porte plutôt pas mal depuis quelques années, il le doit en grande partie à la qualité de sa formation. La fameuse formation à la française, celle qui permet aux équipes de France de briller sur la scène mondiale, qui permet également d'alimenter saison après saison les clubs du top 14 en jeunes pépites de très haut niveau. Un système qui repose sur un maillage serré entre les clubs amateurs d'un côté, disséminés dans tout le pays, mais aussi les structures fédérales et les fameux centres de formation professionnelle. Parmi ces centres, il y a évidemment celui du Stade Toulousain, modèle du genre, créé en 1988 dans la foulée de celui de Grenoble et qui, depuis près de 40 ans, ne cesse de produire l'élite du rugby français. Un chiffre en témoigne, lors du dernier tournoi Destination, près d'un tiers des joueurs appelés par Fabien Galthié étaient passés par la formation toulousaine. Pour en savoir un peu plus sur ce modèle, les Potos ont donc convié aujourd'hui à leur micro la pièce maîtresse de ce centre unique en son genre. Il se nomme Samuel Lacombe, il est le coach référent du Pôle Espoir et du centre de formation du Stade. Il sera avec nous dans quelques minutes pour nous expliquer comment fonctionne cette structure pour le moins efficace. Pour l'interroger, je compte évidemment sur la curiosité et la science des Potos du jour, à commencer par Denis Charvet, enfant du club. Salut mon Denis, même si à ton époque le centre de formation n'existait pas encore. Hein,
c'est... Quand je suis arrivé, le centre de formation est arrivé en 88, donc j'étais encore là.
Bon, tu vas nous expliquer.
Je l'ai vu arriver, le centre de formation, c'est assez bizarre d'ailleurs.
C'est toi qui l'as construit.
Pas du tout.
Avec tes petites mains.
Bon, ça nous paraissait incroyable. C'est-à-dire qu'on devenait le foot presque. Enfin, pas presque, on devenait le foot.
Tu nous raconteras ça tout à l'heure, évidemment, parce que à quel âge tu es arrivé à Toulouse, toi ?
Moi, 21 ans.
Mais tu n'as pas été formé à Toulouse ?
Non, pas du tout. Au Stade Cadurcien.
Mais en revanche, tu avais déjà les qualités d'un bon joueur toulousain.
Il l'avait senti.
Ah, ils sont malins. Ils sont malins, ces Toulousains. Également de la partie, Wilfried Templier, qui nous revient d'Angleterre, où Toulouse est tombé sur un os nommé Saracens.
Salut Wilfried. Bonjour à toutes et à tous.
Salut. La formation.
Je suis arrivé à 30 ans à Toulouse. Pas pour toucher le ballon. Hein.
Toi, t'as été formé à La Rochelle. C'est pour ça qu'ils t'ont pas pris à Toulouse.
Allez, vas-y, commence bien.
Ça commence. Très bien. Avant d'attaquer ce dossier passionnant et notre invité qui va nous rejoindre dans un instant, on va d'abord revenir sur l'actualité de ce week-end rugby, consacré donc à la Champions Cup où nos représentants ont été finalement assez peu nombreux à briller.
Mais comment La Rochelle ne peut pas gagner ce match?
Et la Viva qui retient son souffle, c'est parti pour Harry Byrne. Elle va passer. Incroyable dénouement, les Rochelais à terre.
Enfin, la première victoire française et la section est allée la chercher dans un match assez incroyable face aux Scarlets. Victoire 47-38, 7 essais marqués par la section.
La victoire impressionnante, l'UBBK envoie un message à l'Europe. Le remake de la finale aura tourné largement à l'avantage des Bordelais. Victoire bonifiée, 50-28, 8 essais de Bordeaux. Un triplé de Rayassi, un triplé de Cameron Mwoki.
Oh, l'essai anglais à nouveau! Ils ont pris feu, les Saracens, avec Rotimi Segun qui s'offre un doublé.
Les dernières secondes, et Toulouse qui va s'incliner aux Saracens. On a passé les 80 minutes, 20-14 dans l'axe. Le ballon dégagé par Burke Louvreur. Et Toulouse qui s'incline ici à Londres, qui s'incline sur cette dernière possession des Saracens.
Voilà, seul l'UBB, la section paloise et l'URC Toulon ont réussi à tirer leur épingle du jeu en s'imposant pendant que nos cinq autres représentants subissaient la défaite. Ça a été le cas de Bayonne, de La Rochelle, donc on l'a vu, on l'a entendu, de Castres, de Clermont et de Toulouse, battus par les Saracens et qui concèdent là sa deuxième défaite consécutive dans la compétition. La suite s'annonce quand même périlleuse pour le Stade, Wilfried. Hein, ce grand club, évidemment, fou de Coupe d'Europe et de Champions Cup. Là, deux défaites de suite, c'est assez rare pour être signalé.
C'est assez rare et il faudra batailler factuellement sur la dernière journée pour se qualifier, tout simplement. Alors, on ne va pas dire qu'on n'en doute pas trop, mais bon, faudra y aller sur le terrain. Et puis après, c'est un peu paradoxal parce que le Stade Toulousain peut finir deuxième comme quatrième avec une victoire bonifiée au jeu des résultats. Ils peuvent quand même sortir deuxième. C'est ce qui était espéré après la défaite à Glasgow, puisque Glasgow maintenant a toutes les cartes en main pour finir première, cette équipe écossaise. Donc Toulouse peut finir deuxième, comme l'année dernière en fait. Ça ferait un match à domicile en huitième.
S'ils gagnent, ils sont qualifiés, on est d'accord.
Oui. Mais ça ferait un match à domicile en huitième. Et comme l'année dernière, ils s'étaient déplacés à Toulon en quart. Mais ça veut dire des déplacements en quart.
Derrière, et en huitième cette année.
Bah, ça dépendra de samedi. Ah oui. Ça dépendra samedi. S'ils arrivent à finir deuxième au jeu des résultats, en battant Sale avec le bonus, ils peuvent recevoir.
Bah, normalement, ils vont le faire le bonus. Il n'y a pas de raison.
Oui, il n'y a pas de raison. Après, les Anglais, ils sont pas faciles à manœuvrer.
Toulouse piqué, c'est dangereux.
Ouais, mais ils avaient déjà été piqués.
Ouais, mais là, bon, les circonstances de jeu, la météo, c'était compliqué.
Ah, ça
c'était compliqué. Ça, franchement,
ça a été même compliqué pour Wilfried.
Non, mais vous avez vu le match. Le match, c'était quand même des conditions dantesques.
Oui.
On ne devrait pas jouer en Angleterre.
Non, mais ça nivelle les valeurs, forcément.
En janvier.
Ah, effectivement, avec un terrain synthétique comme ça, il faut s'habituer. C'est pas facile.
Alors, outre cette défaite toulousaine, qu'est-ce qui a retenu votre attention, les poteaux, durant ce week-end? Il est l'heure de nous livrer vos pires et vos meilleurs poteaux du week-end. On va commencer par toi, Denis.
J'aurais pu mettre en tant que joueur. Alors,
comme pire ou comme meilleur poteau?
Si La Rochelle avait gagné, je serais allé chercher les joueurs de La Rochelle, mais malheureusement, ils ont perdu. J'aurais pu mettre Rayassi ou Woki comme fait deux triplés, un triplé chacun. Mais je préfère m'orienter vers Mathieu. Mathieu qui a été extraordinaire pour moi. Le joueur troisième ligne qui vient de Biarritz, qui a signé à Bègles il y a 2 ans, je crois, Wilfried. Ouais. Il s'est épaissi, il a pris une dimension...
C'est un ancien international
absolument,
français. Hein.
Absolument, il a pris une dimension physique incroyable. Il est performant sur tous les ballons, il avance sur tous les ballons, il plaque... Je ne sais pas combien il a fait de plaquage encore hier quand on est en Santone. Moi, il m'impressionne, mais ce n'est pas que hier. Hein, tous les dimanches, moi, il m'impressionne. Hein, il devient titulaire. C'est-à-dire que lui, il n'était pas prévu titulaire en 8. Maintenant, il est titulaire en 8. Hein. Je ne vois pas comment, qui va l'enlever, à part peut-être Gazzotti, mais encore Gazzotti, peut jouer en 7 ou 6. Mais moi,
Attends, il y a Tom Willis qui arrive l'année prochaine.
Oui, il y a Tom Willis aussi, oui. Alors oui. Mais là, je trouve qu'il a pris une dimension... presque international, quoi. On sait qu'il l'avait appelé, Fabien, non, dans les 42.
C'est le meilleur plaqueur bordelais avec 16 plaquages.
Non, mais c'est incroyable. Puis, il fait chaque fois un plaquage, mais offensif. C'est-à-dire que chaque fois, il renvoie le... Non, moi, il m'a impressionné sur le match, vraiment.
Ouais. Bon, il y en a eu quelques-uns des Woki, bordelais impressionnants.
Woki revient bien aussi.
Moefana, franchement.
Moefana est incroyable en défense. Il a été monstrueux. Oui, non, mais il y a Jalibert. On ne va pas parler de Jalibert parce qu'on en parle tout le week-end.
Toutes les semaines, mais effectivement, cette équipe bordelaise a vraiment montré qu'elle était encore ambitieuse et qu'elle espérait bien récupérer ce titre et cette Champions Cup décrochée l'année dernière. Wilfried, ton meilleur poteau du week-end, toi, c'est peut-être Pollock, non Pollock,
Moi, j'étais pas trop sur ce match, hein, parce que j'arrivais au Saracens.
Pollock, incroyable, hein. Quel joueur.
Il y a deux troisième ligne centre qui m'ont impressionné. Alfie Barbery, qui joue avec Bass, qui jouait au Wasp, que le Stade Toulousain avait croisé il y a 3 ans. Qui n'est pas pris en équipe d'Angleterre, qui fait 1,85, 117 kilos. Il a des mains, il est puissant. Franchement, il jouait à Castres. Il a gagné avec Basse, qui est une très belle équipe aussi, vendredi soir à Castres. Il a été très, très fort. Et puis quand même, pour le coup de cœur, le duel des frères Willis hier, Willis face à Jack Willis. Alors, le premier départ, Tom Willis, il a compris que son frère était là, que Jack l'a pesqué un peu. Ouais. Mais derrière, on croit qu'il est blessé, Tom Willis, avant la mi-temps. Il se fait longtemps soigner. Il fait un match, mais dantesque. Hein.
Énorme.
Papa Willis et maman Willis travaillent bien, franchement.
Et tu as vu cette soi-disant bagarre, ou en tous les cas...
Il est arrivé, il a pris son frère, il a pris le grand frère par le cou, comme ça, et ça sourit, et voilà. Alors, entre frangins, c'est pas possible.
Ah bah, ils ont dû se mettre quelques peignets quand ils étaient petits, quand même, je pense.
Plus jeune, ouais.
Puis bonjour les bestiaux, quand
même. Quand tu vois les deux Willis, tu te dis, pourquoi ils jouent pas en équipe nationale, tous les deux?
C'est
un regret.
C'est la règle.
Problème anglais, quoi.
Le Stade Toulousain n'est pas mécontent, hein, et l'UBB sera pas mécontent.
Et puis Fabien Galthié non plus, il n'est pas mécontent.
C'est sûr, les deux.
Tu en parles de Tom Willis, mais Jack Willis, c'est un monstre.
Ah bah, meilleur joueur du top 14, hein.
Il fait un match
avance
encore,
toujours avec le ballon,
étonnant,
les contests, les plaquages, l'avancée balle en main, oui.
Ça va être beau, une finale avec les Willis opposés l'un à l'autre. Il y avait eu les Lièvremont il y a quelques années en finale du top 14. Bon, en tout cas, ça sera à suivre.
Pour se retrouver en finale de la Champions Cup, ça va être dur. Hein.
Alors, je ne parle pas de la Champions Cup, peut-être de la finale du top 14.
2027.
Oui, pas cette année.
On n'y est pas encore.
On n'y est pas encore.
Il y a une belle finale en 2026 déjà.
Oui, bah, y a tous les ans d'un côté. Il y en a tous les ans des finales. C'est ça qui nous arrange. Alors, on a vu les meilleurs poteaux du week-end. Vos pires poteaux, quand même. Il y en a quelques-uns, non? Denis, qu'est-ce qui t'a choqué, par exemple?
Moi, ce qui m'a choqué, c'est le manque de maîtrise des Toulousains qui, en 10 minutes, se sont tirés une balle dans le pied. Alors qu'il fait des preuves d'une maîtrise totale contre le vent.
25 minutes parfaites, ouais.
Mais contre le vent, ce qui est extrêmement difficile, il maîtrisait tout. Ouais. Dupont à la baguette, devant ça avançait. Le Saracens n'avait pas un ballon. Tu te dis, mais bon, ils vont leur en mettre 30, quoi. Tu te dis, avec le vent derrière. Et puis, tout d'un coup, tu ne sais pas pourquoi. Et c'est très rare chez le Stade Toulousain, hein,
oui,
Wilfried.
Comme on l'a dit après le match, ce n'est pas la première fois que ça arrive à Glasgow. Ah, c'est, oui. Voilà,
c'est
ils
déjà arrivé
comme
à
ça.
Glasgow, peut-être. Oui,
dans certaines fins de match, à Bayonne. Voilà, ça,
et là, j'ai trouvé ça.
Ça s'interroge un peu là-dessus.
C'est incroyable. Alors après, ils se sont bien repris. Ils ont même failli aller gagner. Mais
Il y a un tournant. Hein, c'est Julien Marchand quand il est arrêté à 50 cm de la ligne. Oui. Hein, il marque presque et ils sont pénalisés. Et là, derrière, après, c'est un peu.
Mais voilà, ce trou d'air qui m'inquiète pour eux parce qu'ils ne sont pas habitués. Et pour une équipe comme Toulouse, avec le réservoir qu'ils ont, la qualité, c'est pas normal. Quoi, voilà. C'est pas normal.
Ok, donc manque de maîtrise toulousaine, ce quart d'heure fatal qu'ils n'ont pas pu récupérer derrière malgré.
Mais ça part d'un petit contre que sur.
Antoine Dupont, qui dégage. Hein, c'est McFarland, le troisième.
C'est assez bizarre parce que derrière tout se délite derrière ce coup de pied.
Hein. Ah, mais après, quand ça prend feu, comme avec la pluie, avec le vent, le public, voilà. Hein, ouais. C'est dur.
Wilfried, qu'est-ce qui a retenu ton attention en négatif?
Écoute, j'allais dire, ça va faire plaisir à Denis parce qu'il n'aime pas trop. Prendergast, demi d'ouverture de l'Irlande. Vous avez beaucoup de doutes avec Vincent Moscato sur Prendergast, Denis. On les confirme quand même, hein, parce que alors il fait que, enfin franchement, c'est la vitesse de Prendergast. Comment il peut jouer à ce niveau?
Il y a deux essais de West.
Il s'est fait déposer deux fois, par Yaya West.
Yaya West, quand même.
Alors le pauvre, c'est difficile de tirer comme ça sur un joueur, mais c'est bon. Il a fait d'autres choses de mieux dans le match, mais
Je trouve
les limites de Prendergast pour un demi d'ouverture de haut niveau international avec l'Irlande. Quoi.
Tu sais à quoi ça m'a fait penser, parce qu'il a fait les débats dans le Moscato Show sur Jalibert. Je me dis, si Jalibert est en face de ce joueur, je ne sais pas ce qu'il en fait. Ouais. Je pense que c'est très dangereux pour l'Irlande de le faire jouer, mais ils vont le faire jouer, tu verras.
Peut-être.
Ils vont aller jusqu'au bout de leur, de leur bêtise, hein, parce que c'est vrai qu'il est. Non, mais c'est pas possible.
Est-ce que tu penses que Jalibert sera en 10 en équipe de France?
Non.
Ça y est, c'est ce que
non.
Attention, on fait des grimaces autour de moi.
J'espère qu'il sera.
Je suis Stade Ernest Vallon.
J'espère qu'il sera.
Il y a des mots qui sont interdits dans cette enceinte.
Je vais te dire, j'espère pour lui qu'il sera au moins remplaçant.
Ben oui, non, mais on a. Non, c'est ou titulaire ou pas dans le groupe.
Non, mais pourquoi remplaçant? Il peut aussi. Si on fait un banc en 5-3, hein, Wilfried?
On verra, ça fait partie de nos futurs débats.
Oh là là, on a déjà fait, on a déjà
ça
attaqué.
Ça fait 5 ans qu'on
on a déjà attaqué dans les grandes gueules du sport ce week-end. Hein. Et puis voilà, puis le tournoi approche, donc on va se régaler durant les quelques semaines.
La bande de la tête du Pila, là.
Il en est où, Romain? T'as des nouvelles ou pas? Non, justement.
Pas encore. Il doit passer des examens chaque semaine.
Ah, d'accord. Chaque semaine. Donc, c'est le
on
dos,
attend,
là. Qui,
je regarde le téléphone s'il sonne.
Bon, il t'appellera en premier, j'imagine, c'est pour te donner la réponse. La Champions Cup qui reviendra donc dès le week-end prochain avec pour le Stade Toulousain l'obligation de s'imposer face aux Sharks de Sail s'ils veulent encore envisager de décrocher un nouveau trophée le 22 mai prochain à San Mamés en Espagne où aura lieu la finale. Le Stade qui, fidèle à ses habitudes, évoluait donc hier à Londres avec bon nombre de joueurs issus de sa formation. Sur les 23 de la feuille de match, je les ai comptés, ils étaient 8 à être de purs produits toulousains. Ça tombe bien car on va maintenant évoquer cette formation française, cette formation toulousaine qui, je le disais en introduction, est l'une des clés du succès du rugby français. Pour en parler, nous accueillons, il est à tes côtés, Wilfried, nous accueillons Samuel Lacombe, l'un des tauliers de la maison au 24 Brennus. Bonjour Sam, merci d'être avec nous.
Bonjour à toutes et tous.
Bonjour. Alors, Jalibert, c'est un mot interdit, c'est ça, on avait bien compris?
Non, bah quand même. Hein,
on va parler de la formation du Stade.
Bah, il a été bien formé, le petit Jalibert aussi. Il n'est pas passé entre vos mains, celui-là.
Mais non, il faut une formation Véglaise.
Oui, je sais.
Visiblement, non.
Visiblement, non. Bon, il y en a quand même quelques...
Oui, il est bon tout de suite. Hein. Ils savent faire, là, avec les médias, là, au Stade Toulousain. Mais
dis-moi.
Tu l'attaques direct comme ça, c'est pas sympa.
J'ai une question pour lui. Mathieu, il aurait pu jouer au Stade Toulousain, quand même, non?
Oh, je pense, oui. Il a les qualités pour eux.
Alors, le public, Sam, ne vous connaît pas forcément, car vous êtes un peu un homme de l'ombre, mais un homme ô combien important des succès répétés de l'Empire toulousain, votre club de toujours, ou presque. Je crois que vous y êtes depuis 33 ans, c'est ça ?
Oui, ce sera 34e saison.
34e ouais. saison.
4e.
Et Christophe, c'est un nom qui revient très souvent, hein, Sam Lacombe, quand le staff parle de, voilà, de la formation.
On s'est croisés
avec Sam. Comme tu dis, des hommes de l'ombre.
Je suis parti en 90, il arrive en 92.
Ouais. Oui, oui, mais ouais, on s'est croisés. Je t'ai vu jouer, hein, pas... bien évidemment.
Non, mais on aurait pu se croiser avant, je veux dire, t'es arrivé un peu trop tard.
Ouais. Bon, ça... Mais lui, il est resté fidèle à la Toulouse, tu vois, c'est pas comme toi. Hein, toi, Pomponette, qui est parti voir ailleurs après, hein, qui est quand même plus attiré par les lumières de la capitale.
Ouais, bien sûr.
Sam, vous avez d'abord été joueur avant de devenir coach, ou alors tout de suite la passion de l'entraînement vous a pris ?
Oui, oui, mais moi j'ai joué dans le Tarn. D'ailleurs, Vincent Moscato sera très content parce que j'ai joué à Rabastens à côté de Gaillac. Oui, c'est dans ce club de Rabastens où j'ai découvert le rugby et où j'ai pu y jouer et le pratiquer. Et après, j'ai commencé à intégrer l'école rugby du Stade Toulousain en 92, en étant aussi éducateur spécialisé derrière. Et ce qui m'a toujours permis d'allier la passion du partage, de la transmission avec le fait de continuer à jouer un petit peu dans ce club.
Mais en 92, tu arrives comme joueur, je pense. J'ai pas compris.
Non, je suis arrivé éducateur à l'école.
Éducateur, ah, d'accord, à l'école.
J'étais à Rabastens, je jouais à Rabastens.
D'accord.
Voilà. Et donc, depuis ces trois décennies, vous avez officié un peu partout. Vous êtes occupé de toutes les équipes, ou quasiment toutes les équipes du Stade Toulousain. Est-ce qu'il y en a une ou deux qui vous ont échappé quand même ?
Oui, bah, déjà, quand je suis arrivé, j'ai eu la chance de démarrer aussi avec Daniel Santamans et d'être quand même très bien encadré dans la formation. Et on a commencé à gravir tous les étages de l'école rugby jusqu'au cadet, puis au Réchel, Crabos, aux espoirs depuis quelques années. Et puis maintenant, dans la transversalité du projet de Hugo et du bloc performance avec Xavier Garbajouza, avec lequel je travaille.
Daniel, qui était un formidable éducateur pour les jeunes.
Fantastique. Hein. Fantastique.
C'est vrai qu'il avait une transmission par rapport à cette passion qu'il avait, quoi. Moi, j'ai joué à lui, j'étais champion de France avec lui, évidemment.
Oui, puis si vous voulez, moi, je travaille la déclinaison de Pierre Villepreux, avec qui aussi je travaille, hein, qui nous a énormément apporté. Mmh. On l'a connu ici avec Daniel, on l'a connu avec Guy, on l'a connu avec Hugo. Et c'est un ADN qui est fort au club et qui est non négociable ici.
Et Xavier continue et va dans cette lignée-là.
Enfin, ah oui, Xavier, complètement. Complètement.
Ouais. Vous avez décroché quelques petits trophées quand même avec les équipes que vous avez entraînées, non, Sam ? Est-ce que vous les comptez encore, les trophées, les titres de champion de France ?
Alors, il va peut-être te dire non, mais il les compte.
Jeunes, chez les jeunes, chez
les
comptes.
Non, mais ce qui nous importe surtout, c'est d'arriver à former et de retrouver le plus possible de jeunes, d'abord par le centre de formation et ensuite sur notre équipe professionnelle. Ce qui marche quand même depuis pas mal d'années, quoi. Mais après, oui, des titres à la Mercerie, Goderman, Krabos et Espoir, puisqu'on en a eu quatre. Hein.
Quatre, c'est ça, dernières années en Espoir.
Ouais, sur six ans, ouais. Ouais, c'est quand même un beau projet. Et puis surtout, la réussite, elle est de voir tous ces jeunes intégrer l'équipe professionnelle.
Et c'est pour ça, Christophe, qu'on a voulu, parce qu'on voulait parler de la formation, et qu'on prend l'exemple du Stade Toulousain, hein, pour les gens qui nous écoutent. Voilà, comment on fait pour avoir une bonne formation ? Parce que c'est aussi ce qu'on met en avant, Christophe, c'est la bonne formation française aussi, en général.
Oui.
Avec les jeunes joueurs qui sont performants.
Évidemment, mais comme le Stade Toulousain est un peu la référence en matière de formation, parce que ce centre de formation, on en parlait tout à l'heure avant que vous arriviez, Sam, Toulouse a été, précurseur en la matière. Il a vu le jour en 1988. Je crois que Grenoble vous avait précédé de quelques semaines, de quelques mois.
Mais
c'est ancré dans l'ADN du Stade Toulousain depuis presque toujours, finalement.
Oui, c'est ça. C'est 88, hein, et avec quelques sorties après, quelques semaines après Grenoble. Mais c'est vrai que ça a pris une place très importante dans la formation et l'accompagnement des jeunes talents au niveau du club depuis beaucoup d'années.
Et on le doit à qui, à qui on peut faire référence ?
Qui a été le précurseur,
celui qui a pensé, tu le sais, Sam ?
Bah, je sais la création par Valérie Vichy, ça c'est une évidence, hein, sur tout ce qui est structure, administrative, direction, puisque ça a été la première. Après,
c'était avant que René Bouscatel soit président. Donc
c'était
avec Jean-Fabre.
Bien avant, c'était avec Jean-Fabre.
Jean-Fabre, bien sûr.
Jean-Fabre qui était déjà un précurseur des compétitions européennes et mondiales.
Il avait créé le master.
Quoi, voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes coach référent du Pôle Espoir et du Centre de Formation. Ça consiste en quoi ? C'est un métier un peu transversal, vous gérez toutes les équipes, vous faites le lien entre les pros et les amateurs, les jeunes. C'est un boulot à plein temps, ça. Ça doit vous occuper un peu quand même. Hein.
Oui, il y a quelques années, ça a commencé en fait avec la catégorie espoir, où j'étais avec Virgile Lacombe et Bisondag, et puis avant avec tous les coachs, parce qu'en fait le passage espoir est un passage de formation pour les entraîneurs du secteur pro. Et ça a été la volonté d'Hugo et le fait justement de travailler ces deux équipes. On s'est dit bon, finalement ça marche pas si mal que ça, mais on va amener cette transversalité jusqu'au niveau des cadets. Donc on a pris en charge en fait le choix des coachs, l'accompagnement de la formation, le développement, l'accompagnement de la performance des jeunes. Et on a essayé d'avoir cette transversalité des pros et des jeunes professionnels jusqu'au niveau des jeunes, que l'on maintenant on décline sur l'ensemble du club, hein, bien évidemment, avec l'association et la SASP.
Oui, ça veut dire qu'un Clément Poitronneau, un Jérôme Caino, double champion du monde, sont passés, Christophe Denis, par le coaching chez les espoirs avant d'intégrer ou intégrer en même temps. Quoi,
tous,
en fait.
Virgile, ouais. Clément, Laurent Thuéry, Jean Bouillou, tout le monde.
Voilà. Ouais, tout. Donc au contact de ces jeunes derrière, donc ils les connaissaient bien après.
D'ailleurs la réussite du projet mis en place par Hugo et Jérôme Cazalbou, c'est justement la capacité d'avoir des entraîneurs pros qui interviennent dans la formation régulièrement sur des masterclass, sur des entraînements. Laurent Thuéry est intervenu sur l'effectif Krabos, Jérôme Caino l'a fait aussi en cadet. Enfin, on essaie d'avoir justement partage de compétences.
Oui, voilà, la même lignée, qu'on va dire, non,
la même philosophie de jeu,
pensée aussi. Non, philosophie.
Oui, non, mais ça fait Denis.
Oui, on le sait.
C'est non négociable quand même. Ouais, ici, ouais. Hein, cet ADN, cet héritage que vous avez construit avec Vitesse Initiative, avec Pierre Bru, avec Robert Bru et compagnie, ouais. Et qui est perpétué
Robert Bru, Jean-Claude Crella.
Oui, par Guy, par Hugo maintenant et par tous ceux qui suivent. Hein, on est obligé de rentrer dans cette démarche-là d'ADN. Hein, c'est obligatoire.
Mais c'est ce qui fait la force du Stade Toulousain, justement. C'est d'avoir justement eu l'intelligence de garder ça. Comment dire, c'est pas si facile.
Alors c'est la force, je suis d'accord avec vous, mais est-ce que ça peut pas aussi quelque part devenir une faiblesse,
le
fait de rester entre soi.
Mais quand tu crois à des choses, que tu vas au bout,
faut dire que jusqu'à présent
ça marche.
Ça marche plutôt pas
donc,
mal.
Mais ça marche à tous les étages, mais non, ça c'est ça.
Oui, ça marche, mais après c'est évident que. Mais les coachs pros réfléchissent à des évolutions, pas de
ouais,
l'ADN.
Vous allez voir ailleurs ce qui se fait. Vous...
Ah oui, complètement, voilà, mais on est ça. Très riche de ça. Et puis ouais. C'est la volonté d'Hugo de partage, d'aller voir. On respire du rugby, on regarde du rugby, on se déplace, on a des contacts avec d'autres sports. On s'en va à l'étranger encore en février-mars pour certains coachs. On a besoin de partager. L'an dernier, on est parti avec tous les coachs du bloc perf sur Northampton et Saracens. Et l'année d'avant, on était à Bath. Et là, on reçoit l'Académie du Leinster samedi.
Vous échangez beaucoup, quoi.
Ouais, on échange beaucoup. Ouais.
Mais je vais me faire taper sur les doigts peut-être parce qu'on n'est peut-être pas dans le fil conducteur, mais pour le recrutement, c'est pas prétentieux ce que je vais dire, mais il y a des joueurs qui ne correspondent pas à l'ADN du Stade Toulousain. Quand vous allez chercher des joueurs, vous avez quand même un profil à aller chercher chaque fois ou pas?
Oh oui, c'est évident. À part,
mais je ne parle pas que de la qualité rugbystique, évidemment.
Hein. Non, bien sûr. Non, mais par exemple, il y a des profils de numéro 5 très massifs à la Manimé à fou. Voilà, c'est quand même des profils à récupérer. Et on en forme pas forcément
Il n'y en a pas
chez
beaucoup,
nous.
Il n'y en a pas beaucoup, des comme
non,
ça, dans la région. Quoi,
hein,
ça,
non,
ça,
ça, hein.
Ça pousse pas beaucoup dans la région, des comme ça. Hein.
Non, mais après, c'est vrai que la cellule recrutement qui est gérée par Christophe Guitter, Hugo et Jérôme Cazalbou, bien évidemment, et Xavier Garbajosa à l'heure actuelle, on est sur des plans de succession très réguliers et on regarde les besoins, l'évolution du jeune. On est plus sur le futur que sur le présent. En fait, hein. Donc voilà, il faut qu'on fasse attention de ne pas faire n'importe quoi.
Alors si d'autres grands clubs français ont mis du temps finalement à faire de la formation une véritable priorité, ce n'est pas le cas du Stade. Denis, toi tu es un enfant du Stade, même si à ton époque on disait le centre de formation n'existait pas encore. Comment ça s'est passé pour toi? Comment as-tu fait pour arriver à Toulouse alors que tu
habitais
à 100 km de là?
C'est très simple.
Qui est-ce qui t'a repéré? Comment t'es arrivé là?
Alors c'est grâce à la fac, j'étais à l'UREPS et il y avait, j'étais en sciences éco, la première année, après je suis passé en UREPS, il y avait Robert Bru qui s'occupait donc du Krebs de Toulouse et qui était souvent Daniel Fauchier, qui venait voir les matchs de rugby. Alors, il avait son équipe du Krebs, mais il regardait un petit peu et lui il m'avait repéré, en fait c'est Robert Bru qui m'avait repéré. Mais rien de plus, Narbonne m'avait contacté, Brive m'avait contacté, mais je n'étais pas connu surtout, il m'avait repéré, puis un jour j'ai rencontré Christian Massat, qui était vice-président à l'époque, m'a fait rencontrer Villepreux, Pierre Villepreux, qui était pour moi je sais pas, une superstar pour moi. J'avais 20 ans, une légende. Oui, 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 j'ai à peine à lui dire bonjour. Et il me dit, ben, l'année prochaine, ce sera les jeunes, on en aura la priorité aux jeunes. Donc ils avaient déjà cette politique de rajeunir. Et j'ai cru à ça. C'est un truc de fou parce que j'avais aucune raison. Il y avait Roger Thomas au centre, Marcel Sassé, il y avait Palisson, il n'y avait que des joueurs qui étaient pratiquement internationaux. Moi, j'étais rien. Je me dis, mais. Et sur l'inconscience, la croyance, et puis surtout. L'attirance du Stade Toulousain. Moi, j'étais attiré par le jeu du Stade Toulousain. Parce que déjà, dans l'ADN, il y avait ce jeu-là. Il y avait cette construction-là. Les années 80, hein, Sam, il y avait déjà ça. Puisqu'ils avaient déjà fait une finale contre Béziers avec Thierry Merlos. Il y avait Rancoul qui était déjà là. Et moi, j'adorais les voir jouer. J'adorais ça. J'adorais l'état d'esprit, la
et
philosophie.
Tu t'inspirais finalement du jeu.
Et je m'inspirais. Et quand il m'a dit Toulouse, ça, Pierre Villepreux, j'ai dit, bah, c'est là où il faut aller. Quoi. Même si je ne savais pas si j'allais jouer. Mais il y a cette attirance-là. C'est ça qui est formidable. Alors aujourd'hui, c'est multiplié par mille.
Oui, et puis ça génère de la concurrence saine. Hein. Et puis comme on parle du même rugby, ben forcément, chacun peut aussi amener ses
qualités personnelles. Mais déjà, à l'époque, voilà. Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, moi je parle de 83, hein, il y a 40 ans, il y avait déjà cette attirance-là. Il y avait cette vitrine. C'était pas le Stade Toulousain d'aujourd'hui, mais il y avait quand même.
Pourquoi ? Parce que c'est la grande ville, c'est le grand club. Dans une région où tous les gamins jouent.
Il y avait la philosophie, il y avait l'élégance, il y avait tout. Il y avait Jean-Pierre Rive, il y avait Walter Spanghero, il y avait des grands joueurs qui sont passés, mais il y avait un état d'esprit. T'avais envie de jouer à la Toulousaine, déjà. C'était ça.
Mais on imagine que, Sam, les boucliers, les Coupes d'Europe que gagne la génération actuelle depuis des années. C'est pour vous un vecteur de recrutement incroyable. On parle de l'attirance des jeunes.
Oui, mais c'est aussi une problématique parfois et un frein parce que y a des jeunes que l'on a bien évidemment contacté sur certains postes et qui sont sceptiques à venir par rapport au temps de jeu, par rapport justement à cette capacité à gagner et de dire est-ce que je vais avoir ma place, est-ce que je vais jouer. C'est souvent des joueurs qui sont c'est des joueurs qui sont leaders dans les clubs où ils ont été formés et arriver ici et redémarrer, c'est pas simple.
Il y a un nom qui est passé à côté d'un nom, par exemple, d'un joueur qui aujourd'hui est dans le. Qui a réussi, voilà. Non
Sincèrement.
Pas trop.
Non, on est arrivé comme tout le monde à avoir des jeunes qui viennent et qui sont en difficulté et qu'on réaccompagne. Mais réellement, quelqu'un qui est parti ailleurs, je ne sais pas. Après, non, il y en a qui se sont orientés sur d'autres sports comme Simon Désert sur le 7. Hein, voilà, parce qu'il avait l'équipe France à 7, parce qu'il avait vraiment cette spécificité-là. On a quand même cette capacité à faire attention au recrutement quoi, depuis quelques années. Et ça rentre quand même assez bien dans le cadre. Quoi.
Ils ont une machine pour ça, hein, Christophe, hein, dans la toile tissée. Tu peux peut-être en parler.
Oui, justement, je voulais te lancer là-dessus parce que toi, ça t'intéresse, le maillage qui a été fait, qui a été organisé par le Stade Toulousain, justement, pour ne rien rater et pour faire tomber les meilleurs dans les toiles du Stade Toulousain.
Bah, c'est quelque chose que j'ai découvert. On s'est intéressé au sujet il y a 2-3 ans en discutant aussi avec Michel Marfin, ancien joueur évidemment que tout le monde connaît, qui est directeur du centre de formation. Et Sam, ce que tu peux peut-être expliquer, on se tutoie aux auditeurs, hein, que quand on parle de toile tissée, c'est un peu ça, parce que jusque de l'Espagne à la Belgique, est-ce que vous pouvez.
On a la chance d'avoir pas mal d'anciens joueurs, parce qu'après, la force aussi du stade, c'est d'avoir des anciens joueurs qui s'impliquent dans la formation et des jeunes jusqu'aux plus grands. Et après, on a aussi des joueurs qui sont passés par le stade et qui sont un peu partout en Europe et en France et avec qui on a des contacts. Et bien évidemment, il y a un maillage qui est tissé. Et puis, l'objectif, c'est d'aller voir les matchs. Il faut voir les joueurs jouer. Hein. Il faut pas juste faire ça sur CV. On se déplace, on va voir. Et c'est vrai que la cellule de recrutement a créé quelque chose d'assez intéressant. Pour avoir des retours assez objectifs quoi, sur les jeunes. Quoi.
Vous avez le biais aussi des stages aussi
Emile Tamac a monté les stages à la Stade Academy. Il y a les stages Pierre Villepreux qui sont différents des stages à Milou, bien évidemment, parce que c'est Pierre, mais c'est la même philosophie de jeu. Donc il se peut qu'on voit aussi des jeunes avec beaucoup de compétences à développer dans le futur. Mais Emile a monté énormément de stages et on a des bases de données de joueurs bien évidemment. évidemment assez forte. Oui.
C'est ça qu'il faut comprendre, qu'il y a des centaines de jeunes joueurs qui viennent l'été.
Ah oui, c'est des centaines.
Ouais. Au stade toulousain, est-ce que juste les détails de...
Oui, Emile a monté des stages l'été, je crois qu'il en a 5. Il y a 5 semaines qui sont complètes avec plus de 200 jeunes à chaque fois. Et après, surtout, c'est que Michel Morfin avait monté des partenariats avec les clubs autour de Toulouse, en France et en Europe. Ouais. Et Emile a monté des stages 3 jours et des échanges de formation.
Mais ça, c'est en lien
avec vous, c'est en lien avec le Stade Toulousain, ou c'est quoi,
ouais, complètement privé.
Non, non, c'est Stade Toulousain.
C'est Stade Toulousain, d'accord.
C'est ouais. Stade Toulousain Académie.
En fait, ils viennent, les jeunes viennent là l'été, ouais. Ils sont logés.
Mmh. C'est un stage rugby vacances, ouais.
Voilà,
ouais.
Mais ils viennent pas pour boire du jus de pomme et
non,
faire
non,
trois passes.
C'est un stage où il y a 2 entraînements par jour, où ils vivent un petit peu.
Ils vivent, ils font que du rugby, quoi.
Comme d'autres montées les stages aussi, ça.
Il n'y a pas de troisième mi-temps après, quoi.
Non, mais ça permet de voir des centaines de joueurs chaque été, de jeunes joueurs qui viennent postuler.
Non, c'est rugby plaisir hein, quand même, c'est rugby vacances, mais par contre, mais les jeunes qui viennent, ils viennent faire 2 entraînements par jour, donc il faut être quand même probablement motivé
donc
par le rugby.
Si c'est 5 fois 200, ça fait 1000 joueurs, sur 1000 joueurs, il t'en reste combien
déjà, il faut se dire que nous, quand même, dans le fait d'accompagner nos coachs, parce que nous, on croit quand même beaucoup à ça, hein, c'est d'abord former les cadres aussi, et qu'on puisse parler sur le même unisson, et ensuite, on fait monter en compétence tous nos éducateurs, éducatrices et coach du bloc perf pour qu'on essaie d'abord un par notre formation de nous remplir les plans de succession et ensuite deux par des stages, des aller voir des matchs, aller voir des sélections, repérer des jeunes qu'on va faire entrer à partir de Krabos espoir sur des centres de formation comme tout le monde hein.
Ouais, parce que pour former ces jeunes il faut des bons formateurs et là aussi vous prodiguez des formations justement à des entraîneurs
en performance, il vient de dire.
Et puis vous allez même dans les clubs, dans les clubs partenaires, tout autour de la région toulousaine, où les éducateurs de ces clubs viennent être formés à Toulouse et ensuite ils vous servent un peu de relais dans ces clubs.
Oui, bien sûr. Ben, d'ailleurs, ce soir, il y a une formation qui est dispensée par Michel Morfin, Xavier Garbajosa, David Mellet, qui va intervenir une demi-heure, et c'est animer le jeu des trois quarts. Donc, on se retrouve avec tous les éducateurs U16, U18 et seniors des clubs partenaires qui sont autour de Toulouse. Ils sont invités à 6 lundis de réunion et d'échange sur des thématiques. Ça va de le jeu du stade, le mouvement général, la relance, le jeu des avants, le jeu des trois quarts, le jeu au contact, la défense, il y a tout ce qu'ils vont.
Voilà, ils parlent tous le même langage.
Ouais,
après.
Surtout, ils viennent. Ils viennent voir comment nous on fonctionne, ils repartent avec aussi des billes, des exercices, des situations, et puis surtout on a les échanges derrière. Hein.
Ouais. Tous les clubs de la région qui sont partenaires avec vous, vous signalent aussi lorsqu'ils ont une petite pépite qui est en train d'arriver,
est-ce
qu'il y a un échange, comment ça se passe?
D'abord il y a des conventions avec les clubs, ouais. et jusqu'en minime on ne prend personne.
Oui, vous ne déplacez d'accord. pas, vous non, ne déracinez non, pas non, les joueurs non, avant non. un certain âge, ça.
Non,
vous
non, puis c'est comme ça, et ensuite on les accompagne. Et aussi bien que le jour de la journée de détection que nous faisons comme tout le monde en février là, ce sont les clubs autour de Toulouse qui nous envoient leurs meilleurs joueurs pour passer là soit des entraînements complémentaires, soit la journée de détection voilà.
Mais donc vous avez une éthique, vous les prenez pas trop jeunes, mais aujourd'hui on sait la concurrence fait rage. Est-ce que les autres clubs, les autres centres de formation agissent de la même façon que vous, ou est-ce qu'on se tire la bourre finalement pour essayer d'attirer dans ces filets les meilleurs et ceux qui sont appelés à devenir des pépites?
Je pense qu'à partir d'une certaine catégorie, on se tire la bourre, hein, ouais. Évidemment, parce que tout le monde regarde les prestations des U20.
Et puis les autres bossent bien aussi, ils ont le droit de bien bosser.
Et puis les autres travaillent très bien, bien évidemment, parce que c'est la formation française qui est montée en compétences partout, hein, pas qu'au stade. Et c'est pour ça que nous, Hugo nous remet très souvent sur le rail avec Jérôme pour réfléchir à comment être meilleur dans les 5 ans à venir, les 10 ans. On réfléchit toujours à ça, hein, on ne s'arrête pas aujourd'hui. Donc il faut absolument que nous, on réfléchisse à tout en gardant l'ADN du club, à devenir meilleur dans la formation. Voilà.
Et ensuite, lorsque ces jeunes quittent leur petit club de village ou leur petit club de petite ville pour rejoindre l'école de rugby du Stade Toulousain, est-ce que les clubs pré-formateurs reçoivent une forme de rémunération, d'indemnité, ou ça n'existe pas vraiment dans le rugby, ça?
Oh, si, ça existe, puisque Xavier est mieux placé que moi pour en parler, parce que je connais pas trop les indemnités, mais je sais qu'il y a une histoire de...
Par rapport à une convention, j'imagine, non?
Non, non, mais il y a une rémunération à partir du moment où on fait signer un jeune en minime ou en cadet.
Oui, c'est fixe, ouais.
Je sais pas si c'est pas 2500 balles, un truc comme ça, je ne sais
rien. Le club formateur.
Je veux pas... Ouais, mais c'est bon, ça reste normal, hein. Mais sur ce, au-delà de l'aspect financier, on a l'aspect accompagnement humain, développement et relations avec les clubs, c'est important. Et puis nous, sur les catégories espoirs, on n'a pas 100% des joueurs qui signent centre formation et pro. Donc ça veut dire qu'on réenrichit les clubs de la région et ailleurs en proposant et en accompagnant les jeunes, quoi. Voilà, il y a de la fédérale une partout. On en a à Gaillac, on en a des jeunes en double licence, on en a à Lille-Jourdain, on en a au FCTT, on en a à Blagnac, on en a à Grenade. Et on a la chance dans ces clubs d'avoir plein de jeunes et coachs qui sont passés aussi par chez nous.
Il y a un vivier incroyable, hein, messieurs.
On est quand même au cœur du rugby du pays, quoi. Hein,
du monde.
Du monde.
Ah oui, quand même.
Excuse-moi, Denis.
Les tontons, les cousins, les neveux.
On a tout inventé, tu le savais pas, Christophe.
Ça t'arrange d'être Toulousain quand tu veux, toi.
Ouais, ouais, ouais.
Moi, je suis Toulousain.
Tu dis pas toujours ça, quand même.
Mais non, mais après, j'ai vos stades français, moi, je suis invité.
Quand tu sais. Ouais, ou quand tu dis que Jalibert devrait quand même jouer à la place de Damac.
Non, c'est pas vrai. Jamais.
Il n'a pas dit ça.
Je n'ai jamais. Alors, tu vois, il est mauvaise foi.
Il n'a pas dit ça du tout.
Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit le mec. Non, tu reprends les bandes.
Je vais les reprendre, tiens. On va rigoler, tiens. Sam, à partir de quel âge on arrive à repérer le potentiel rugby d'un jeune joueur? Est-ce qu'il y a un âge ou
ouais, mais l'âge, surtout. Avec le rajeunissement de catégorie qui a été fait il y a quelques années, je trouve que c'est compliqué. Parce qu'avant, on avait tous un an de plus quand on jouait en U17, en U15, en U19. Et là, ben, c'est U16, c'est U14, c'est U18. Je trouve que tout va très vite. C'est d'où l'importance de vraiment travailler avec les clubs partenaires et de ne pas aller trop vite avec les jeunes. Après, qu'est-ce qu'on repère? On repère, comme tout le monde, les morphotypes, la vitesse, la capacité à lire, les capacités techniques, le morphotype à un poste. Joël Merclair, quand il est arrivé, forcément, c'était très costaud, donc on l'a accompagné tranquillement, et puis voilà, ça commence à porter ses fruits. Bon, il est arrivé en Crabos.
Ouais,
il est arrivé en Crabos. Voilà, donc on essaie de voir comme ça, mais bon, recruter des jeunes avant,
c'est
16, 17 avant lycée.
Crabos de
Junior Crabos, ouais. C'était moins de 18, donc il avait 16, 17, 17 ans, je pense qu'il avait.
Ouais.
Voilà. Mais après, voilà, il faut tout accompagner, le scolaire, le double projet. Il faut qu'on fasse attention de ne pas déraciner pour pas pouvoir accompagner derrière. Et ça, le stade c'est de Mazabé, en cadet, je crois.
Ouais, en cadet aussi. Ouais. Et vous aviez décelé aussi, il n'avait pas le physique comme Joël Merclair, c'est pas le même poste, mais.
Non, mais
il n'était pas dominant là-dedans, mais dans d'autres choses.
En termes de lecture de jeu, prise d'initiative, vitesse, jeu, quand même. Bon, voilà.
Ouais.
Non, je pense que. Mais le recrutement au stade est quand même très, très, très homéopathique, quand même. Et c'est serré, c'est focus. On ne fait pas venir des masses et des masses de mecs. Et je pense que les gens qui décident de la venue ou pas ont les capacités, quand même, d'essayer de se projeter dans le futur sur le jeune. Si c'est un gamin qui habite à 10 km autour du stade, on pourra toujours l'accompagner. Après, faire venir un jeune de très, très loin, il faut quand même avoir des certitudes.
Ouais. Oui, c'est pas toujours le cas, en fait.
C'est dur.
On peut faire des paris sur l'avenir, mais
parier, mais bon. Puis après, un jeune de 14 ans, on n'est pas certain qu'il va réussir.
Oui, ça dépend de sa croissance.
On est loin du compte, non, mais c'est vrai.
Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut pas aller trop vite. Il faut prendre le temps. Et plus on aura des relations avec les clubs autour, et plus on permettra aux jeunes d'évoluer dans son environnement et de l'accompagner en envoyant des coachs.
Parce que parfois, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des doubles licences aussi.
On en a beaucoup.
C'est-à-dire que le jeune vient jouer, peut jouer avec le Stade Toulousain, mais peut repartir des week-ends dans son club.
Jouer avec son club de village le week-end.
Moi, en espoir, tous les joueurs qui ne sont pas centre de formation ont tous une double licence.
Ils jouent tous les week-ends, en fait.
Tous les week-ends, ils jouent avec la fédérale, les Fédérales 1 qui est autour. On a la chance d'avoir les six clubs de la Fédérale 1 avec qui on fonctionne, qui sont dans la même poule. Donc ça veut dire que nous, on va voir les matchs.
Ah oui,
c'est important.
Donc ils sont coéquipiers dans le centre de formation. formation la semaine et ils sont adversaires le week-end.
En espoir, pardon.
Ouais,
parce que centre de formation, on ne peut pas les mettre forcément double licence.
Donc, bon, c'est compliqué pour un joueur de gérer cette situation.
Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Franchement, ils se sont joués Blagnac à FCTT ce week-end. Et là, ils sont ensemble cet après-midi. Ouais, il y en avait plein.
Ils s'affrontaient, ouais.
Ouais, plein.
C'est que les gens savent pas, peut-être.
Non, c'est drôle.
Ils jouent dans leur club.
Nous, on a Gaillac, Grenade, Lille-Jourdain, Blagnac, FCTT. Qui sont dans la même poule. Ouais. Et ça suffit sur l'Est, pardon, que j'ai oublié avec Hugues.
Donc, du coup, il n'y a pas de
bagarre générale parce qu'ils sont tous copains. Quoi.
Justement, il faut se respecter. Bon. Quand on se respecte, on se fait des bornifles.
Bah, on a vu que les frères Willis hier. Hein,
c'est... Non, oui. C'est pour rien.
Non, mais c'est un apprentissage qui est important. Il faut que les jeunes jouent au rugby. Bon.
Il faut jouer, en tout cas, il faut jouer.
Bien sûr.
C'est essentiel.
Donc, vous les repérez dans le coin. Et puis, vous nous le disiez tout à l'heure, lorsqu'il y a des profils un peu particuliers, vous n'hésitez pas à faire le voyage ou, en tous les cas, de les attirer de très loin. Vous nous avez parlé de Meafou, Movaca aussi. Movaca qui a été recruté alors qu'il était à Nouméa, je crois.
Il y avait plusieurs. Hein. Il y avait Rodnetti, il y a plusieurs. Il
faut dire que c'est une belle région aussi pour former des beaux bébés là-bas.
Vous aviez une filière dans le Pacifique,
je pense qu'ils ont. On a des contacts là-bas, on n'a pas forcément quelque chose de très officiel, mais par contre, oui, il y a des contacts. Mais comme on a fait Elias Efrain, le jeune argentin, ils vont voir les matchs U20, ils se renseignent.
Il y a eu les frères Toloufoua à une époque.
Ouais, et puis surtout, les recruteurs chez nous sont dans un plan de succession dirigé par Hugo et Jérôme. Et voilà, on a des profils qu'on cherche parce qu'on ne peut pas les former chez nous. On a une projection de moins 2, de plus 4. On regarde ce qu'on a 2 ans en dessous et on regarde ce qu'on aura dans 4 ans. Et alors, on se trompe.
Il ne faut pas avoir de trous générationnels, ça c'est le but, c'est éviter le trou.
Et puis Hugo nous dit toujours, l'équipe du Stade dans 5 ans c'est quoi?
C'est ça.
Il ne faut pas s'en apercevoir à la 4e année, c'est maintenant. Donc on a des jeunes, il faut les accompagner, derrière on met des plans de développement assez forts. Et puis voilà, la priorité c'est le développement et puis les accompagner le plus possible pour les retrouver sur le terrain. D'où on fait l'interview.
Tels les Benjamin Bertrand, les Lacombe,
Joël Cramon, Clément Berger, Guillaume Cramon.
Il y en a un paquet.
Moi, j'en ai compté
années.
Ce week-end, là, autour, là, quand Hugo faisait le speech avant le match à l'hôtel, il y a 20 joueurs qui sortaient des espoirs.
Ouais.
Ils sont passés par les espoirs, 20.
Sur un groupe de combien de professionnels que vous
avez? Ils étaient 23 plus les hors-groupes, sur 28, 29 mecs à peu près, je pense, comme ça.
Ouais. Mais c'est énorme.
C'est beau, je crois que c'est unique, non? Vous êtes un rare club quand même, me semble.
Ouais, je pense qu'on avait pris de l'avance là-dessus, que des clubs sont en train d'y aller aussi, parce que la chance qu'on a aussi, c'est d'avoir un directoire et une direction sportive professionnelle qui met des moyens aussi pour la formation. Hein. Donc, en plus de l'association, bien évidemment. Hein, on a des Louis Benoît Madol qui sont rentrés entraîneurs espoir, on a David Mellet qui entraîne les espoirs, on a Jérôme Queineau qui entraîne les espoirs, on a les coachs pro qui interviennent sur les groupes d'en bas, on a Xavier Garbajosa qui nous a rejoint,
ça a toujours été ça.
Les salariés de l'asso qui sont là aussi, les éducateurs,
Dans le top 14, quel club a votre profil ou suivre votre profil.
Ou essaye de faire pareil que vous. Il y en a qui essayent de vous copier.
Copier, je ne sais pas si c'est le mot, le verbe.
Pour le modèle, quoi.
Mais je ne sais pas, mais clairement, à travailler sur la formation.
Bordeaux, l'UBB Cimé, oui.
Ouais, ils s'y sont mis, ouais. Ils déclinent, en fait. La Rochelle l'avait lancé un peu il y a quelques années avec Greg Pata, tout ça, qui entraînait les espoirs que les pros. Ouais. Et ce système qui a été mis aussi
c'était
en place.
C'était le cas
ici.
Avec Romain Sazi aussi.
Romain Sazi qui l'a fait. Je pense que c'est super intéressant d'avoir la transversalité du très haut niveau répercuté sur les jeunes avec de bons projets et d'avoir justement ces pyramides de compétences qui montent au fur et à mesure pour arriver à profiler nos joueurs pour pouvoir jouer chez les pros.
Alors, quels sont les critères pour intégrer le centre de formation, les équipes du Stade Toulousain? Est-ce que vous allez chercher des jeunes avec des profils spécifiques? Vous cherchez un pilier, deuxième ligne, ou ça se fait par la suite de manière naturelle?
Non, c'est ça, c'est ce que je disais, c'est que là, nous, on a des réunions tous les mois sur les plans de succession. On a des plans de succession à 2 ans, 3 ans en prévision, donc on regarde par rapport aux fins de contrat, par rapport à ce que gère Jérôme Casalbou et Hugo.
Au besoin.
Ouais, ça, et puis surtout l'évolution du jeune qu'on va devoir prêter, donc qui on regarde le coin, puis on va voir les matchs, des jeunes, des fédérales, des nationales, des espoirs.
C'est passionnant ce métier quand même.
Un jeune comme Benjamin Bertrand, il vient d'où ? Tu l'as repéré où ? Comment ?
Alors Benjamin Bertrand, il a fait le stade, hein, parce qu'il a fait l'école du stade. Ouais. Après, il a été à Blagnac. Castanet, et ensuite revenu à Blagnac quand ils étaient à National, me semble-t-il, et bon, la National lui a fait énormément de bien, il était plié à National, ça lui a fait du bien, comme Clément Berger, Giron,
Thomas Ramos est parti aussi à un moment à Colomiers, s'aguerrir avant de revenir.
John Vineski l'a fait quand il était
finalement la formation, ça passe par là, la formation finalement. Aussi.
Oui, parce que c'est pour ça, quand vous disiez non, on fait tout entre nous et tout ça, mais c'est bien aussi de que les joueurs aillent voir ce qui se fait ailleurs univers, et aillent découvrir d'autres univers.
Ah, pour s'aguerrir aussi. Hein, ouais,
non, mais je crois qu'ici, on a eu pendant des années, entre guillemets, c'est pas la peur, mais c'est d'avoir le sentiment quand même de maîtriser ce modèle de performance, d'apprentissage du jeu. Et c'est vrai que ça paraît un peu consanguin de l'extérieur, mais si on n'a pas été formé ici, ou pour la plupart joué ici, parce que je suis vraiment le cas à part, c'est difficile de venir entraîner des équipes. On a François Aborde, mais il a joué ici. Kamel Mirini, il a joué ici. C'est des mecs qui entraînent. Louis Benoît, il a joué ici. Et voilà, on a des mecs qui ont quand même touché cette âme du Stade Toulousain et par la formation en tant que joueur. Et tous les mecs en pro, ils sont passés par ici. Quoi, hein. Ouais.
Voilà, donc, Denis, t'as jamais eu envie, toi, de retourner, donner un coup de main à Toulouse avec les joueurs avec lesquels tu as évolué dans tes grandes années ?
Non, parce que je ne servirai à rien.
Tu ne serviras à rien ?
Alors, fallait le faire avant.
Voilà, non, mais c'est pas
en vocation. C'est un peu tard,
c'est pas en vocation. Je le fais 15 jours par an à les Barbarians, et encore en ce moment, on n'a pas de tournée. Mais non, mais au quotidien, c'est un vrai métier, c'est une vraie vocation, c'est une vraie passion. Et je suis admiratif.
Il faut se former en plus maintenant.
Je suis admiratif parce que ça fait plus de 30 ans qu'il donne ça. Sa passion, sa vie, sa transmission, c'est génial, franchement. Voilà, mais moi je serais incapable de faire ça.
Très incapable.
Non, je suis admiratif. Ouais.
Le Stade Toulousain, qui est un club à l'identité très forte, hein, on dit toujours jeu de main, jeu de Toulousain, est-ce que c'est une réalité qui s'applique dès le plus jeune âge ? Est-ce que c'est une philosophie que vous inculquez à vos joueurs dès qu'ils arrivent dans les écoles de rugby à Toulouse ?
Mais oui, parce que de toute manière, l'apprentissage du jeu au Stade Toulousain passe par le jeu, donc et passe par la méthode de Pierre Villepreux et tout ce qui a été mis derrière, et de Robert Bouille. Donc on démarre par le jeu et ensuite on va sur le particulier. Le jeu, c'est
beaucoup
le mouvement
collectif,
général.
Beaucoup non, c'est mouvement la... général.
Oui,
parce qu'on le voit à l'équipe première, à l'entraînement,
oui,
il y en a beaucoup.
C'est le rapport attaque-défense permanent sur les entraînements. Voilà. Mm-hmm. Après, bien évidemment, ça ne suffit pas.
Oui.
Il faut arriver à développer la spécificité, il faut arriver à développer tout ce qui est technique individuelle, mais la compréhension du jeu et pourquoi on fait les choses est primordiale. Donc ensuite, on va sur le comment. Bien sûr, c'est un dialogue permanent entre pourquoi on fait les choses et comment on les fait, c'est bien évidemment. Mais ce rapport attaque-défense et cette méthodologie du mouvement général est prioritaire dans l'apprentissage du jeu ici.
Je vous dis ça parce qu'on voit souvent les entraînements ouverts qu'on a de l'équipe première, c'est beaucoup de collectifs,
tous les mardis, tous les
d'opposition.
C'est ça depuis 40 ans, Wilfried.
Ah, exactement.
Ça a commencé, je l'ai dit, Sam, avec Robert Bru et Pierre Villepreux. Mais nous, on touchait du ballon tout le temps. Ils étaient précurseurs parce qu'effectivement, à l'époque, tu vois les entraînements des autres équipes, parce qu'on j'allais en équipe de France, on parlait, tu vois, c'était un enfer. C'était l'opposition, c'était du rentre-dedans, alors que nous, c'était du plaisir, de la passion, du jeu.
Oui, puis en jouant, tu sais bien, Denis, tu apprends à visualiser les formes de jeu, à jouer ensemble et à avancer ensemble.
Avoir des automatismes te permettent de voir le jeu plus vite que les autres.
Le Stade Toulousain, quand il avance en continuité, il est dangereux. Oui. Les secteurs de développement, nous, chez les jeunes, sur la formation, bien évidemment, vous le savez, c'est tout ce qui est air et tout ce qui est sol, parce qu'on a besoin de le développer. Donc, c'est évident qu'il faut qu'on y rentre dans les temps qui viennent.
Exactement. Et vous n'hésitez pas non plus à mélanger les groupes, c'est-à-dire que les pros se mêlent aux jeunes et vous intégrez comme ça un peu les gamins à l'entraînement, évidemment.
Hugo et les coachs pros veulent fonctionner avec 45 joueurs. Des fois, on fait des collectifs à 3 équipes. Hein, avec du siège, c'est très dynamique. On y intègre les joueurs du centre de formation parce qu'ils ont le droit de le faire. Donc on a pas mal de joueurs du centre de formation qui s'entraînent très très régulièrement. C'est pour ça que la notion d'équipe en espoir est particulièrement compliquée. Mais c'est pas grave quoi. Je veux dire, en termes de formation, et nous l'objectif maintenant c'est d'arriver, de pas creuser une différence d'accompagnement entre tous ceux qui s'entraînent avec les pros et ceux qui n'y vont pas. Voilà. Donc nous on travaille à ça à l'heure actuelle avec tous les coachs et c'est de monter en compétence tous les gamins qui s'entraînent n'entraîne pas avec l'équipe professionnelle. Voilà, parce qu'il faut aussi qu'on s'occupe d'eux.
Il ne faut pas qu'il y ait des laissés pour compte à côté. Non, mais c'est pas le cas.
Ce n'est pas le cas, mais par contre, on les accompagne. Ouais, on essaie de les accompagner le mieux possible. D'où la relation avec les fédérales et les nationales, hein, qui sont primordiales pour les temps de jeu.
Et les stars du stade, est-ce qu'elles mettent la main à la pâte aussi aux entraînements?
Bien sûr.
Que des Dupont, des Movaca, des Ntamack viennent filer des.
Il y a quelques années, pareil, sur l'idée de Hugo et de Jérôme, on a monté les masterclass. Les masterclass, on réunit à peu près 4 fois ou 5 fois par an sur des thématiques de spécificité de poste. On a fait lanceur, première ligne, jeu au pied, demi de mêlée et sauteur. Et bien c'est Jean Bouillot qui s'occupe des sauteurs et il fait venir des joueurs. Il y a eu Flamand, il y a eu Richie l'année dernière. Quand Virgile Lacombe fait les premières lignes avec Thierry Savio, Kamel, toute son équipe, on fait venir les plus forts potentiels à partir des cadets jusqu'aux espoirs. Mmh. Et ils sont accompagnés par Doudou, par Cyril Baye, par Jules Marchand,
par Aldeguerri.
Et ils viennent s'investir. Et en faisant ça, on essaie aussi de trouver la passion chez certains joueurs qui arrivent peut-être en fin de carrière et qui vont peut-être faire évoluer.
Dites-nous, là, il y en a un ou deux là, dans l'équipe type qui a des aptitudes d'entraîneur. On parle toujours de Thomas Ramos. Oui. On dit celui-là, ça ferait un bon coach.
Mais Thomas, il aime partager. Il aime post-entraînement, il reste avec les jeunes. Il n'est pas vieux. Il reste avec quelques espoirs. Il est là, mais ils sont très partageurs, les joueurs du stade. Hein.
Oui. Moi, je cite Cyril Baye aussi, qui, dans ses discours, qui parle toujours des jeunes, enfin, qui a vécu ça il y a 10 ans, et qui, dans ses discours, parle beaucoup des
jeunes. L'an dernier, on a fait, il y a 2 ans, un an et demi, je crois, parce qu'après Toto, il a eu la blessure, mais il est venu à un masterclass. Antoine est venu à un masterclass demi de mêlée, il a participé. Il y a eu Paul Graou, il y a eu du monde. Enfin, le partage, il est très très important ici.
Ils viennent expliquer aux jeunes, regardez les attitudes comme
ils font avec eux.
Je vois Christophe, il en revient pas. Il se dit,
mais je comprends mieux pourquoi ils sont ici.
Très chouette.
Ils ont autant de titres.
Bah oui,
le temps d'avance.
Mais c'est forcément.
En train de dire ça, je le vois.
Bah exactement, je me dis ça.
Là, il est rouge et noir, Denis, là, Christophe. Il est...
T'as raison de te le dire.
La transmission est importante.
Denis, quand même.
Mais je suis tout vrai. Mais tu arrêtes, je suis tout
vrai. Ça réveille quelque chose chez lui, en fait.
Mais oui, en fait, cette ici, son âme de jeune garçon.
À côté de moi, c'est incroyable. Mais je suis Toulouse à vie, mais vous ne vous rendez pas compte.
Non, mais c'est vrai que ça paraît simple, mais encore faut-il y penser. Voilà, de se faire entraîner par Antoine Dupont quand on est du 16 ou Jérôme Caino, même avec les espoirs, qui est double champion du monde.
C'est extraordinaire, tu veux dire.
Et puis en plus, le centre de formation est à l'intérieur du club. Hein. Ça, racontez-nous, tout le monde bouffe à la même cafette ou tout le monde se côtoie au quotidien?
Oui, c'est ça. Oui, on est là. Et puis, de toute façon, le centre de formation, il est complètement intégré avec nous et dans le projet du Bloc Perf. Michel Marfin travaille avec nous. On fait attention au double projet le plus possible. Et puis, on accompagne les jeunes. On intervient sur le centre parce que, de toute façon, les meilleurs joueurs du centre de formation s'entraînent aussi avec les espoirs ou avec les pros. Donc, forcément, on a ce partage de compétences qui est obligatoire, sinon on s'en sortira pas. Hein.
Ouais. Le double projet, c'est obligatoire, puisque je crois que tous les centres de formation doivent être agréés d'un agrément ministériel pour exister. Je crois que vous êtes le seul club en France à posséder une école intégrée, c'est-à-dire que tout se fait au sein du stade toulousain, des cours sont prodigués, les gamins n'ont pas besoin de partir à l'autre bout de la ville dans les lycées pour être formés, même en études supérieures, je crois.
Hein. Si, on en a quelques-uns parce qu'on a l'école privée qui est là depuis un moment où il y a du BTS Master et on a pas mal de jeunes qui font ça, mais après on en a qui sont en médecine, on a qui sont en Sciences Po, il y en a qui sont en Manip Radio, on en a qui sont en apprentissage.
En médecine
on a Hugo Descube qui est en 3e année de médecine.
Joël Merclair
qui a fait Sciences Po, Clément Berger qui a fait le professeur.
Un pilier qui est intelligent, non, c'est dangereux là.
Oh, c'est pas beau ce que tu fais.
Mais non, mais c'est vrai, attention.
C'est encore plus dangereux.
Je connaissais un certain Charles Chimon, il était intelligent, il était médecin. Mais il était fou.
Il était très dangereux.
On a les conventions avec les universités, avec les lycées. On essaie de. Enfin, on est obligé d'avoir le système scolaire parce qu'il prend une grosse partie de la semaine. Ouais. Et voilà.
Juste une chose après, Christophe, s'il est intéressé aussi, c'est le le rôle avec Hugo Mola, ouais. L'importance que ça a. Sam était, j'étais au Saracen, Sam était là avec l'équipe première. Ouais. Donc il y a le fil rouge et voilà, il est toujours là.
En fait, le projet, justement, Hugo, c'était de monter quelqu'un de différent au niveau du secteur pro qui n'est pas passé par le secteur professionnel ici et justement qui amène ce fil rouge de la formation, de ce qui nous a investi quand on était plus jeune et de ce qui nous a créé en tant que coach et maintenant de le partager et de faire attention que, et ça se fait parce qu'on choisit les coachs, mais de faire attention que cet état d'esprit de jeu, de formation soit décliné sur l'ensemble des équipes et de fait de travailler aussi avec Xavier maintenant, Garbajosa en plus et Johan qui était là avant mais qui est toujours au club aussi et Emile et tout le monde, on travaille tous dans la même direction donc c'est très important, ouais, c'est très important d'avoir un éducateur qui est monté sur le secteur pro.
Et alors quand tu es au Saracen, ça va un déplacement à Londres, est-ce que tu as un œil plus particulier sur les jeunes ou pas forcément?
Oui, forcément, mais après c'est surtout les échanges, et puis on en profite pour, on a travaillé sur des documents, on avance, on prépare les groupes, on prépare la semaine d'après, on échange sur les mecs, on échange à chaud, on parle avec des joueurs, c'est un vecteur collectif de transmission et de partage qui est important. Quoi.
C'est un temps incroyable quand même. Hein.
Assez, surtout par rapport à mon profil, parce que en ayant joué à petit niveau, étant passé par l'éducateur du Stade Toulousain et me retrouver sur le secteur professionnel au contact toute la semaine, c'est riche d'enseignements, mais c'est bien dans les échanges, parce que bon, j'ai entraîné Clément quand il était jeune, j'ai entraîné Virgile Lacombe aussi quand il était jeune, et on a des échanges particuliers, et puis c'est des mecs qui adorent la formation, donc ils ont été construits ici, c'est riche, quoi, c'est bonheur. Quoi.
Mais vous n'avez jamais eu envie d'aller dans des pôles fédéraux, aller vous occuper des équipes de France jeunes, ça peut être un truc à terme où vous serez ad vitam aeternam attaché au Stade Toulousain?
Comme moi. Je suis très bien là et puis 54 ans. Moi j'aime j'ai passé mon DES pour ça il y a quelques années avec pas mal de mecs là avec qui on a gardé des super contacts. Et moi ce qui me plaît maintenant c'est le management, la formation, l'accompagnement, la performance du jeune, créer des outils avec toutes les compétences qu'on a au stade, accompagner les mecs.
Mais 54 ans, t'es jeune, tu pourrais être.
Oui, mais je suis jeune, Denis, mais
demain, si quelqu'un te propose un projet.
Non, je suis bien ici, moi. Je suis bien ici. Moi, si le projet c'est.
T'as jamais été sollicité pour un projet
Si, parce que j'ai des amis un peu partout.
Vous êtes allé en Corse, non?
Oui, j'y suis allé. Alors, je faisais 3 semaines là-bas, 1 semaine ici. À
ça, c'est pas mal, par contre.
Mais oui,
ça.
C'est très très bien. Mais je me suis
régalé.
Je me suis régalé là-bas. Je me suis régalé. On a monté un centre d'entraînement. J'ai bossé avec Ali pendant un an. Et puis surtout, on a fait évoluer des gamins. On a fait des tournées au Pays de Galles, partout. La Ligue Corse nous a vachement aidé à monter des projets. Franchement, je me suis régalé. Mais le projet d'Hugo ici a été pour moi très intéressant. Imaginez-vous, éducateur, cadet. Bon, j'ai fait les Chez les Cravos, tout le monde, mais quand on nous propose d'intégrer un projet de formation magnifique. En lien, en transversalité avec les pros, c'est difficile de dire non. Quoi.
De se déplacer comme ça avec un groupe pro sur les matchs et choses comme ça.
Oui,
d'être dedans, quoi, en fait. Ouais. En fait, il n'y a pas les jeunes d'un côté et l'équipe pro de l'autre.
Non, c'est surtout ça, c'est la richesse de ce club, c'est le partage du président jusqu'au président de l'asso et jusqu'à l'entraîneur des 8. Quoi.
Et juste, il y a beaucoup de jeunes Toulousains dans le groupe, mais il y en a qu'on se dise aussi dans le top 4. Alors, il n'y a pas que la formation toulousaine, on le répète, hein, y a des bons clubs ailleurs.
Non, mais là, c'était l'exemple. On a pris le meilleur exemple, évidemment.
Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a des joueurs dans le top 14 qui sont passés par le Stade Toulousain. Des Vérag, Chalureau, des Guillaume Marchand qui sont Pagerello qui est à Bordeaux. Il y en a plein d'autres, peut-être comme ça, ça ne me vient pas là comme ça, mais c'est une ruche.
Oui, puis c'est intéressant. Moi, ça me trotte un peu là. Pareil, on a parlé dans ces échanges à l'hôtel de savoir sur les 6-7 dernières années de prendre tous les effectifs espoirs et de regarder où sont les mecs, combien il y en a qui ont intégré le centre de formation. Ça, c'est intéressant. Voilà, et je suis en train d'y travailler dessus.
Bravo. Eh ben, bravo pour votre boulot, génial. Sam. Doit être passionnant en tous les cas. Ouais. Passionnant très au quotidien, c'est un super job. Hein.
Non, mais on apprend beaucoup de choses
et le
rugby se porte bien, le stade tout se porte bien, mais vous avez entraîné plein de clubs et aujourd'hui on le voit avec les GIFs, avec
je pense que les GIFs ont vraiment été un accélérateur formidable pour la formation.
Ah, c'est sûr.
Merci beaucoup Sam Lacombe et bonne continuation
avec
Stade Toulousain. Faites-nous construisez-nous plein de jeunes rugbymen qui nous feront rêver et qu'on ira commenter avec Denis, avec Wilfried, un titre de champion. champion du monde, ce serait bien.
Dans
ça.
Deux ans.
Dans deux ans, ouais. Bon,
eh ben, ça marche.
Il y a encore
merci
du boulot, on compte sur vous. Merci Sam Lacomba.
Ciao, ciao.
Merci beaucoup. Merci les potos.
Salut.
Merci Denis et Wilfried. On se retrouve évidemment là.
Un très bon podcast, je trouve.
Ah ouais, très intéressant. On a appris des choses aujourd'hui.
Ouais. Ouais.
Exactement.
Bravo.
Bravo à Wilfried qui a eu l'idée.
Ouais, bravo. Hein,
il est bien ce chef.
Non, c'était très sympa. Non, mais je savais qu'il y avait pas mal de choses à dire pour avoir bossé sur le sujet quelques mois avant. Voilà, c'était très instructif.
Eh ben, c'est parfait. Bonne semaine, les potos. À la semaine prochaine. Ciao.
Ciao, ciao.